Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, prêché le 28 novembre 1965 à Shreveport, Louisiane, États-Unis d'Amérique du Nord. Inclinons nos têtes. Seigneur bien-aimé, nous te remercions ce soir pour la promesse de la venue du Seigneur Jésus. De ce jour où nous nous rencontrerons dans une grande réunion qui ne se terminera jamais. Là où il y aura de l'allégresse et des chants, comme nous te louerons durant les âges éternels à venir. Nous te demandons de bénir la réunion ce soir. Nous te demandons de bénir ce tabernacle, son équipe, ses pasteurs, ses aides, ses copasteurs et tous. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces gens qui ont parcouru plusieurs kilomètres pour venir à cette réunion. Pose ta main de grâce sur eux, comme ils s'en retourneront chez eux. Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous nous réunir encore bien des fois dans cet endroit qui est appelé la maison de Dieu pour y adorer. Bénis ceux, Seigneur, qui sont en liaison téléphonique avec nous. Que tous ceux qui ne sont pas sauvés puissent trouver leur sauveur ce soir. Guéris tous les malades et les affligés. Ô Père, ton serviteur est lui-même à ton service, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je suis si heureux d'être ici ce soir. Je suis entré juste au moment où frère Ernie chantait la dernière partie de son chant, « Sur les ailes d'une colombe ». C'est certainement un joli poème, certainement, et je sais qu'il est bien à propos. Ainsi donc, nous sommes très reconnaissants. Je souhaiterais que vous tous qui êtes en liaison avec nous ce soir, d'un bout à l'autre du pays, puissiez seulement être ici pour voir cette attitude d'expectative sur la figure des gens comme ils sont entassés dans le bâtiment ce soir. Nous avons un moment merveilleux. Nous voulons remercier frère et sœur Jack Moore, frère Noël, frère Bootlayer, frère Brown, tous ces différents frères associés ici, tout le tabernacle, toute l'équipe, de nous avoir réinvités. C'était réellement une, je ne pourrais pas dire une coïncidence, c'était simplement la main de Dieu qui a opéré cela. Il y a un frère ici qui a eu un songe dernièrement au sujet de cette chose qui est arrivée. Il dit que j'étais vêtu d'un pantalon blanc et chaussé de mocassins. C'est exactement ainsi que j'étais vêtu lorsque j'ai appelé frère Jack pour la réunion ici. Exactement, à Carson, Colorado, chaussé de mocassins et ayant un pantalon blanc Levi's. Frère Léo, si vous êtes à l'écoute, j'avais justement l'intention de vous rencontrer il y a quelques instants, et c'est à ce moment-là que la réunion a commencé, juste à ce moment-là. Maintenant, c'est dimanche soir. Je sais que beaucoup parmi vous rouleront en voiture toute la nuit pour rentrer chez eux. Quelques-uns aussi seront sur la route à l'aube. J'ai moi-même 2 jours de route à parcourir. Et nous ne vous retiendrons pas très longtemps. J'ai essayé de faire de cette soirée une soirée à l'ancien temps, comme lorsque frère Brown, frère Jack et chacun de nous avions l'habitude de prier pour les malades, il y a des années. Nous prierons pour les malades de la même manière que nous l'avons fait autrefois. Maintenant, pouvez-vous m'entendre tout au fond, derrière? Je continue simplement à baisser ces microphones car je suis enroué. Ainsi, je veux... Il y a juste une petite chose, ce petit incident qui est arrivé. Eh bien, on me racontait dernièrement qu'il y avait un frère. Peut-être est-il ici ce soir dans la réunion. Il venait juste de sortir du système dénominationnel. Il se rendit à Shreveport, car il voulait entendre parler du message. Il s'égara, ne sachant pas où il se trouvait. Ainsi, il est allé en ville. Il vit un attroupement de gens et dit, « Est-ce ici que Billy Branham va prêcher ?»« Non, c'est ici que Billy Graham va prêcher par l'intermédiaire d'un film. » « Eh bien, répondit-il, je regrette, mais je me suis trompé d'endroit. » Il monta la rue et dit, « Maintenant, où puis-je aller, Seigneur ?» Il se mit à monter la rue principale. « Je ne sais pas ce que c'est, il y a une grande église là, tout en haut, au bout de la rue Texas. Il y avait une grande croix blanche sur l'église. » Le Seigneur lui dit, « Continue simplement à marcher. » Lorsqu'il arriva, il y avait Eh bien, ce doit être ici, car il y a beaucoup de voitures autour. Voilà qu'une épouse et un époux sortaient de l'église. C'était hier soir. Il y avait un mariage, je les ai vus sortir. Le Seigneur me dit, voici ce qui en est. Tu sors maintenant du système dénominationnel pour entrer dans l'épouse, afin de t'en aller avec l'époux. Voyez-vous? Je faisais remarquer à ma femme en descendant la rue comment la lune et les étoiles étaient suspendues juste au-dessus de cette croix, comme nous sommes entrés. Je pense que je remarque seulement les petites choses comme celles-ci, qui sont peut-être une sorte d'éloge à ma foi en Dieu et à mon ministère. Je me rappelais ce soir, lorsqu'à Tucson, il y avait Victor le Duc. C'était ce Français. C'est un véritable Français. Je pense que je vous racontais l'autre jour que lorsque j'eus fini de parler, essayant de séparer le système dénominationnel du véritable christianisme, et un homme d'une dénomination pentecôtiste très connue me tenait une sorte de petit discours là-dessus. Ainsi, Denny Henry, je pense que c'est le cousin d'un certain acteur de cinéma ou quelque chose comme ça, et c'était un baptiste. Il courut vers l'estrade, m'entoura tout simplement de ses bras et dit, « Frère Branham, j'espère que ceci ne paraîtra pas sacrilège, mais cela pourrait être le 23e chapitre de l'Apocalypse. » Comme il commençait à dire autre chose, il se mit à parler en langue. Trois personnes de langue française, une femme de forte corpulence, au teint brun, venant de la Louisiane. Il se peut qu'elle soit assise ici ce soir. Écrivit sur un morceau de papier ce qu'il disait. Puis Victor le Duc, un ministre, écrivit la même chose. Et ils comparèrent leurs notes, où ils allaient le faire. Un homme aux cheveux pâles, d'une espèce de blond, se tenant tout au fond, aussi éloigné qu'il pouvait l'être, s'avança. Il désirait voir ses notes. C'était l'interprète du français à l'ONU. Et les trois notes étaient pareilles. Il dit ceci, « Parce que tu as choisi ce chemin plus difficile, tu l'as choisi, tu l'as pris et choisi de ton propre choix, comme nous le savons, Moïse dut faire son choix, ceci est le chemin précis et correct, car c'est mon chemin. Quelle glorieuse décision tu as prise. À cause de ceci, une grande partie du ciel t'est réservée. Cette chose en soi est ce qui produira et amènera la victoire formidable dans l'amour divin. » Toutes les trois étaient pareilles. Je pensais en avoir la copie originale ce soir. J'ai regardé dans ma Bible, mais elle n'y était pas. Denny Henry ne sait pas. Comme moi, il connaît à peine le bon anglais. Il ne se soucie pas d'apprendre le français. Si vous remarquez, c'est comme en français. Ils mettent le verbe avant l'adverbe. L'interprétation des trois était exactement la même. Denny Henry fit il y a quelque temps, il se peut que Denny soit à l'écoute ce soir. Victor le Duc l'est peut-être, car je sais qu'il se trouve à Tucson. Vous qui êtes à Tucson, à l'église, au tabernacle, dont frère Green est pasteur. Frère Victor le Duc, si je comprends bien, se trouve dans une réunion sous la tente, en bas de la rue du Parc, qui mène à la grande route 80 et qui vient comme ceci. Si vous allez là-bas demain soir et le soir suivant, peu importe combien de temps il sera là, allez l'entendre. Il se peut que Denny soit avec lui. Il se pourrait qu'il soit à l'écoute au tabernacle même ce soir, je ne sais pas. Denny est allé à Jérusalem juste après cela et dit qu'il était étendu là dans le sépulcre, sur la pierre où reposait le corps de Jésus, juste avant sa résurrection. Soudainement, il pensa à moi, et sortit en courant, se mit à pleurer, et s'éloigna. Il était dirigé. C'est un homme qui fabrique des objets à partir de roches, je veux dire, de parcelles de roches. Il alla là-bas, où on dit qu'il descendit la croix, et détacha un petit morceau de roche, à peu près 2,5 cm carrés. Il mit cela dans sa poche, et il s'empressa de le rapporter chez lui. Quelque chose lui disait, « Fabrique une paire de boutons de manchette à frère Branham avec cette roche. » Ainsi, il la mit dans l'acide, et elle passa de la couleur de l'aspect naturel à celle du jaspe sanguin, et il fabriqua les boutons de manchette. Lorsqu'il me les donna, il n'avait pas remarqué, juste au milieu de chaque bouton de manchette, qu'il y a cette raie droite et étroite. Je les porte ce soir. pour prier pour les malades. Vous voyez une couleur de jaspe sanguin, comme le sang qui ruisselle, avec la ligne droite et étroite qui traverse complètement. C'est exactement ce que disait sa prophétie. Le chemin droit est étroit. C'est ce qui était dit dans la prophétie, voyez-vous, je lui ai montré. Denis, si tu es à l'écoute, toi ou frère le duc, cette soirée sera une soirée à l'ancienne mode, lorsque nous devrons prier pour les malades. Je suis heureux de marcher dans ce chemin droit et étroit, le chemin de l'Évangile, le chemin de la parole, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. C'est si plaisant de vous parler que je vais simplement continuer, mais je vous aurais retenu trop longtemps. Billy a dit qu'il y avait environ 300 ou 400 personnes pour lesquelles prier. Ainsi, je devrais simplement aller aussi vite que possible avec notre message, et puis prier pour les malades. Maintenant, pour les gens de l'Arizona, samedi soir prochain, nous serons à... Je ne peux jamais me souvenir du nom de cette ville. Yuma, Arizona, au banquet. Ensuite, ce sera en Californie. Nous continuerons aussitôt dimanche matin vers Los Angeles et les endroits où il est prévu que nous allions. Ce soir, je désire faire ressortir un texte de l'Écriture. En passant aujourd'hui, j'étais assis dans une cafétéria, à la cafétéria Morrison. Frère Jack, sa femme, ma femme et moi sommes allés dans cette cafétéria y passer un petit moment ensemble. Nous n'étions pas sortis. Sa femme et la mienne ne s'étaient jamais retrouvées ensemble. Il y avait un jeune homme qui s'avança vers moi, appelé Green. C'est le père de frère Perry Green. Il dit, « Vous savez, frère Branham, vous parliez d'une Johnny Pine l'autre soir. C'est réellement une, que dites-vous, non pas une pince à cheveux. Vous parliez des Johnny Pine. Je vous ai apporté une Johnny Pine. Il me la donna. Maintenant, c'est une Johnny Pine, mesdames. » Cela n'est pas fait pour les cheveux. Une Johnny Pine, il l'avait utilisée depuis des années pour tenir les pages de sa Bible à plat. Je vais vous donner une vraie Johnny Pine. Ainsi, frère Green, si vous êtes ici quelque part ou si vous êtes à l'écoute, cette Johnny Pine est épatante. Elle les tient juste comme il faut. Maintenant, nous voulons pénétrer dans les Écritures sans plus tarder. Je désire que vous preniez avec moi maintenant le psaume 55 et ensuite Matthieu 3. Ce soir, mon sujet sera le thème de frère Ernie, sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Maintenant, je ne pourrai pas prendre toutes les notes et les versets que j'ai ici. J'en sauterai simplement quelques-uns, car j'ai promis le message. Dieu voulant, samedi soir à Yuma, je désire prêcher sur... les conditions requises pour l'enlèvement, si le Seigneur le veut. Psaume 55. Prête l'oreille. Vous dites 55, oui monsieur. Prête l'oreille, ô Dieu, à ma prière, et ne te cache pas à ma supplication. Écoute-moi et réponds-moi. Je m'agite dans ma plainte et je me lamente. À cause de la voix de l'ennemi et devant l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi l'iniquité et me poursuivent avec passion. Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi, et des frayeurs mortelles sont venues sur moi, et un frisson de terreur m'a couvert. Et j'ai dit, « Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais et je demeurerais tranquille. Voici, je m'enfuirais loin, et je me logerai au désert, Selah. » Selah veut dire « Amen ». David, un amoureux du désert, quand il fut affligé, les gens ne voulaient pas le croire, et les ennemis l'avaient assailli. Il dit « Si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais vers le désert pour y habiter. » Combien de fois ai-je pensé la même chose? Si je pouvais décrocher mon fusil du mur, prendre mon sac de campement, aller dans le désert et ne jamais revenir. J'ai demandé au Seigneur si je pouvais vivre pour voir le jour. Je ne désire pas du tout avoir de service funèbre. J'ai dit, si je pouvais simplement m'en aller dans les bois quelque part, poser ma vieille blonde contre l'arbre. Excusez-moi, c'est mon fusil. Je dis ceci à cause de ma femme qui est assise là. Vous savez, C'est un fusil qu'un frère ici m'a donné il y a des années. J'ai tué 55 pièces de gibier avec ce fusil sans manquer un coup. Certains d'entre eux se trouvaient même à 700 ou 800 mètres. Je l'appelle ma blonde parce que ma femme est une brunette. Ainsi, elle dit que je pense plus au fusil qu'à elle. Mais, ainsi, j'aimerais poser mon fusil contre un arbre et je dirais alors, Seigneur, laisse Joseph le trouver un jour. J'aimerais avoir les ailes d'une colombe et m'envoler. Un jour, je me trouvais là-haut dans les montagnes. J'observais un aigle. Je le vis s'envoler. Vous en connaissez l'histoire. Et je dis, Seigneur, il est bon d'être ici, comme disait Pierre. Nous pourrions dresser 3 tentes. Mais, en bas, au pied de la montagne, les malades, les affligés attendent, les perdus et les mourants attendent. Ainsi, faisons ce que nous pouvons faire, tandis qu'il fait jour. Et un jour, il y aura les ailes d'un aigle blanc s'étendront. Il nous emmènera au loin. Maintenant, dans Matthieu 3, 16, j'aimerais lire les versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En d'autres termes, en qui je me plais à demeurer. Maintenant, nous allons parler un peu de cet oiseau. La colombe a toujours été l'un de mes oiseaux favoris. En pensant à la colombe et le pigeon sont le même oiseau. Le pigeon est une colombe domestique. Ils sont tous les deux de la même famille. Je les ai observés et ils sont de la même famille. Le pigeon et la colombe sont tous les deux de la même famille. Ce sont des oiseaux aux habitudes assez spéciales. J'ai prêché ici, il y a quelques années, dans une réunion sous la tente avec Frère Mort, sur l'agneau et la colombe. Je pense que vous vous en souvenez tous, comme la colombe est l'oiseau le plus pur que nous ayons, et l'agneau est l'animal le plus doux. Ce sont tous les deux des oiseaux et bêtes de sacrifice. Comme c'est un merveilleux type ici de Jésus qui est l'agneau et de Dieu qui est la colombe. La colombe ne se serait pas posée sur un loup, car sa nature ne convient pas. Elle ne pouvait pas se poser sur un chien, car sa nature ne convient pas. Ce devait être sur un agneau. Les deux natures devaient être pareilles. C'est ainsi que nous devons être. Notre nature doit changer et passer de celle du pécheur qui rugit à cette douce nature de la colombe. Avez-vous remarqué que la colombe conduisait l'agneau? Et remarquez, l'agneau abandonna tout ce qu'il possédait à la colombe. Et remarquez où la colombe le conduisit, à la crucifixion, à cause des péchés de nous tous. Or, la colombe, Dieu voulut représenter son Fils. Il fut représenté par l'animal le plus pur et le plus doux de la terre, un animal terre à terre. Mais lorsque Dieu se représenta lui-même dans le ciel, ce fut par le plus doux et le plus pur de tous les oiseaux du ciel, la colombe. Maintenant, il y a une grande variété de colombes. Ordinairement, notre tourterelle est un oiseau d'une espèce de reflet gris. Ensuite, il y a la colombe pleureuse, puis la colombe du soir. Il y a aussi celle qui est appelée la colombe chanteuse que nous avons chez nous, qui est un petit oiseau gris, un tout petit oiseau aux ailes rayées de rouge. Il y a plusieurs espèces de colombes et elles varient en couleur. Il en est de même pour les pigeons. Maintenant, la colombe est un oiseau de constitution assez spéciale. Elle ne peut pas manger de saleté. Elle ne pourrait simplement pas le faire, car sa constitution l'en empêche. Or, j'ai toujours dit de la colombe qu'elle était un symbole de Dieu et que la corneille était le type de l'hypocrite. Une corneille peut se poser sur une vieille carcasse, en manger toute la journée, s'envoler vers les champs et manger du blé avec la colombe. La colombe peut très bien manger du blé, mais elle ne peut pas manger de la carcasse, voyez-vous? Elle ne peut simplement pas le faire, car elle ne peut pas digérer cela. Et je me demandais pourquoi, tous les deux sont des oiseaux, Mais pourquoi ne le peuvent-ils pas? C'est à cause de leur constitution. C'est ainsi qu'il en est d'un chrétien véritable. Un simple chrétien dénominationnel peut bien manger n'importe quoi, mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas manger les choses du monde. Il est constitué différemment. J'ai découvert que la colombe n'avait pas de bile. Il n'y a pas de bile dans la colombe, car elle n'en a pas besoin. Il en est ainsi d'un chrétien. Il n'a pas besoin de fiel, car il peut seulement manger la nourriture de Dieu. Voyez-vous? Et il n'est pas nécessaire d'avoir de fiel pour digérer cela. Il faut l'amour pour digérer cela. Voyez-vous? Ceux qui ont du fiel, oh, disent-ils, eh bien, ils ne sont pas d'accord avec elle. Mais l'amour reçoit toujours celle-ci, la parole de Dieu. Maintenant, elle n'a pas de bile. C'est pourquoi elle ne pourrait pas. C'est simplement contre sa nature de manger quoi que ce soit de mauvais. Si elle le faisait, cela la tuerait. Mais ne vous en faites pas, elle n'en mangera pas, car elle n'en a pas du tout envie. Il en est ainsi d'un chrétien véritable. Saviez-vous qu'un vrai chrétien n'a pas même un seul péché qui lui est imputé? David disait, « Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. » Quand vous êtes lavé dans le sang de l'agneau, non pas par un semblant, mais réellement par le sang de l'agneau, Dieu ne vous impute rien de ce que vous avez fait, parce que vous êtes sous le sang, et il ne voit pas cela. Il y a un sacrifice sanglant. La seule façon dont il puisse vous voir, c'est de la façon dont il vous a vu avant la fondation du monde, quand il écrivit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est tout ce qu'il peut voir, car vous êtes libéré de tout ce qui a jamais été fait. Vous êtes lavé dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi il n'y a pas de bile en vous. Il n'y a aucune habitude impure en vous, parce que le sang de l'agneau a fait ceci. Dieu ne peut pas vous imputer le péché, alors qu'il y a là une offrande expiatoire réservée pour vous. Eh bien, dites-vous, cela me donne alors toute la liberté, frère Branham. Je peux donc faire ce que je veux. Je fais toujours ce que je veux. Mais quand un homme peut réellement voir ce que Jésus a fait pour lui, qu'il fait demi-tour et qu'il fait quelque chose de contraire à celui-ci, cela prouve qu'il n'a jamais reçu Christ. Ma petite épouse est assise là-bas derrière. Elle est 10 ans plus jeune que moi et grisonne autant que moi. C'est parce qu'elle s'est tenue entre moi et le monde extérieur. Par exemple, si je partais outre-mer et que je... Est-ce que ceci ne serait pas une drôle de vie de famille si je réunissais ma famille autour de moi et que je disais « Écoute bien, Madame Branham, il faut que tu réalises que tu es Madame Branham. Tu n'auras aucun autre mari pendant mon absence. Ne fais surtout pas de l'œil à un autre homme, et ainsi de suite. Ne flirte surtout pas. Si tu fais cela, quand je reviendrai, je vais divorcer avec toi. » Si elle se retournait, disait « Maintenant, mon bonhomme, je veux aussi te dire quelque chose. Tu ne fréquenteras pas une autre femme quand tu seras parti. Tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. Ou bien, considère-toi simplement comme divorcé quand tu reviendras à la maison. » Alors, serait-ce une famille qui s'aime? Voyez-vous, non. Si je l'aime réellement, même si je commettais une faute, que je m'échappais et faisais quelque chose de faux, je crois qu'elle me le pardonnerait parce qu'elle m'aime. Si elle le faisait, je crois que je le lui pardonnerais, certainement, car je l'aime. Mais si je l'aime ainsi, aussi longtemps que je l'aime, elle n'a aucune inquiétude. Bien qu'elle me pardonnerait, je ne la blesserais pour rien au monde. Je me sentirais l'homme le plus coupable au monde. Je ne pourrais pas attendre le moment de lui dire ce que j'ai fait parce que je l'aime. Eh bien, c'est, si je l'aime ainsi d'un amour philéo, combien plus grand sera mon amour agapo pour Jésus-Christ? Bien que je puisse fumer la cigarette, je ne l'ai jamais fait de ma vie, mais même si je le faisais, il pourrait me le pardonner. Je crois qu'il le ferait. Je l'aime trop. Que Dieu m'aide. Je ne veux rien faire de la sorte parce que je l'aime. Voyez-vous? Ces choses m'ont quitté, car lorsqu'il me changea de corneille en colombe, cela fit une différence. Je n'eus plus faim de ces choses. Alors le péché ne m'est pas imputé parce que je ne cherche pas à le faire. Ce n'est pas dans ma nature de le faire. Or, une autre grande chose au sujet de la colombe. C'est un oiseau étrange. Avez-vous déjà vu tous les oiseaux? Un de mes oiseaux favoris est le robin. Maintenant, vous les garçons, arrêtez de tirer sur mes robins, car je ne veux pas que vous fassiez cela, voyez-vous? Savez-vous comment un rouge-gorge eut la poitrine rouge? Vous savez, un jour, il y avait un homme qui se mourait sur la croix. Personne ne voulait l'aider. Dieu l'avait abandonné et il se mourait. Ses mains étaient percées de clous. Ses pieds et son côté saignaient. Une couronne d'épines était sur sa tête et le sang coulait sur son visage. Il y avait un petit oiseau qui passait par là, un petit oiseau brun. Et il regarda cela. C'était l'image la plus triste qu'il ait jamais vue. Il savait qu'il était juste un petit oiseau. Mais il regarda ses énormes et cruels clous romains enfoncés dans ses mains. Il s'approcha avec son petit bec pour essayer de retirer ses clous. Il eut toute la poitrine baignée de sang. Depuis ce temps-là, il a la poitrine rouge. Je désire que ma poitrine soit aussi recouverte de son sang, protégeant cela quand je viendrai le rencontrer. J'aime le petit robin, le rouge-gorge. Mais vous savez, le petit robin doit prendre un bain tandis que la colombe n'a pas à le faire, non. Elle possède une espèce d'huile à l'intérieur d'elle qui la oint et la garde pure du dedans au dehors. Saviez-vous cela? La colombe possède cela. La colombe s'huile elle-même. En avez-vous jamais pris une dans vos mains, un pigeon ou autre, et senti cette odeur qu'elle a? C'est cette huile qui vient de l'intérieur. Son corps possède une glande productrice d'huile qui garde ses plumes toujours nettes à l'extérieur parce qu'elle est propre du dedans au dehors. C'est juste. C'est un petit oiseau merveilleux. Maintenant, je sais que vous pouvez les chasser ici, je pense en Louisiane. Ne faites pas cela. Je pense que si j'étais affamé, ce serait en ordre, mais je ne pourrais simplement pas appuyer sur la gâchette si j'avais à le faire. La colombe rappelle un fait très étrange dans notre famille. Un jour, ma grand-mère, elle venait du nord du Kentucky, de la réserve des Cherokees. Elle se mourait, une petite femme. Elle était, je pense qu'ils appellent cela la scrofule ou quelque chose du genre. Elle se mourait. Et grand-papa s'agenouilla à côté du lit, tandis que maman, tante Bertie, tante Holly et les autres s'agenouillaient autour du lit. Oncle Charlie n'était qu'un tout petit garçon de 4 ans, le cadet. Maman, qui était l'aînée, avait à peu près 12 ans. Et grand-maman, dans son lit, avait démêlé ses cheveux et s'était mise à chanter « Rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi » pendant qu'elle se mourait. Grand-papa, à ce moment-là, n'était pas chrétien. Je l'ai baptisé à 87 ans, au nom de Jésus-Christ, au bord de la rivière là-bas, où l'ange du Seigneur apparut. Mais tandis qu'elle chantait ce chant, ses faibles mains en l'air, une colombe entra par la porte. Elle s'approcha, se posa sur la tête du lit et se mit à roucouler. Dieu emporta son âme. J'ai visité Londres, en Angleterre, avec frère Jacques et frère Gordon Lindsay. Il y avait une femme du nom de Florence Nightingale qui m'écrivit plusieurs lettres. Elle affirmait, je pense, l'arrière-arrière-petite-fille ou quelque chose comme cela de la défunte Florence Nightingale. Elle était là-bas, en Afrique du Sud, se mourant du cancer. Elle avait une photo d'elle, vous l'avez vue dans le livre. Je n'ai jamais vu de ma vie une telle mourante. Frère Jack, je crois, était avec moi ce jour-là. Nous sommes entrés dans la maison d'un ministre au presbytère, juste derrière l'église où il l'avait amenée. Comme nous étions encore sur le... là où l'avion descendit, ils nous ont envoyés chercher. Elle se trouvait dans une ambulance à ce moment-là. Elle avait été transportée en avion depuis l'Afrique du Sud, sachant que j'allais en Angleterre à ce moment-là. Le ministre l'emmena au presbytère, ainsi nous sommes allés, là-bas derrière, prier pour elle. J'ai vu beaucoup de malades, mais ses petits bras n'offraient pas plus qu'un pouce d'épaisseur, soit 2,5 cm. Son crâne, là où les parties sont reliées entre elles, vous pouviez voir cela. Et elle, des jambes à peu près jusqu'aux hanches, cela ne faisait pas plus à peu près 2 pouces, 5 centimètres d'épaisseur. On ne voyait que les os. Elle ne pouvait pas lever les mains. Elle était trop faible pour lever ses mains. Elle essayait de dire quelque chose. Je ne pouvais pas la comprendre. Finalement, je réussis à comprendre. Je crois que ce fut par l'entremise d'une infirmière. Elle dit, « Frère Branham, priez Dieu de me laisser mourir. » Elle ne voulait pas vivre. Je remarquai que des larmes coulaient de chaque côté des os de son visage. Comment avait-elle pu trouver assez d'eau en elle pour pleurer? Je ne sais pas, car des veines étaient fermées et elle était dans une terrible condition. Venant prier pour les malades, je ne pouvais pas prier qu'elle meure. Mais elle semblait simplement ne pas pouvoir mourir. Elle languissait. Je m'agenouillais dans la chambre avec votre pasteur pour prier. Lorsque je m'agenouillais pour prier, une petite colombe s'approcha de la fenêtre. Elle se mit à roucouler. Quand j'eus fini de prier, j'ai pensé qu'une colombe domestique se trouvait là quelque part, car dehors il y avait du brouillard, vous savez comment c'est là-bas en Angleterre, dans les îles britanniques. Cette petite colombe s'arrêta de roucouler et s'envola. Je m'avançais vers la malade et lui imposais les mains en invoquant le nom du Seigneur. Cette femme est une femme robuste et en parfaite santé aujourd'hui, sur les ailes d'une colombe. La colombe se garde pure depuis l'intérieur. Un chrétien fait cela aussi. Il nettoie à partir de l'intérieur. Cela éloigne la malice. Il n'a pas besoin de bile pour digérer ces choses, car il n'en mange pas. Il est pur du dedans au dehors. Maintenant, nous remarquons que cet oiseau, j'ai beaucoup de choses écrites ici, mais l'heure avance. Cet oiseau était aussi employé dans l'Ancien Testament comme sacrifice d'expiation et de purification. Reportons-nous seulement ici à l'une de ces choses dans Genèse 15, 9. Pensons à ce verset juste un instant. Maintenant, Abraham demanda à Dieu ici comment il ferait ceci. Dieu renvoie sa parole à Abraham et lui répond d'une drôle de façon. Commençons au verset 1. Je ne veux pas bousculer ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Vous voyez, Abraham était un prophète, ainsi il eut des visions. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Jéhovah Nissi, vous voyez. Abraham répondit, dit, voici, il dit, Seigneur Éternel. Remarquez, S majuscule, Seigneur Éternel, Elohim, voyez-vous, Seigneur Éternel, dans la vision, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Il lui fit déjà une promesse, vous savez. À ce moment même, Abraham aurait failli, mais la promesse est inconditionnelle, l'alliance est inconditionnelle. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il avait 100 ans à ce moment-là. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Un homme sans enfant et alors âgé de 100 ans. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ?» Maintenant écoutez ceci. Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans. » Une chèvre de 3 ans, observez les trois maintenant, de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Tous les deux étant de la même espèce, il s'agit donc de la même chose, vous voyez, c'était utilisé dans un sacrifice pour préfigurer Jésus. L'alliance fut faite, vous savez comment il les disjoignait et comment est-ce que ceci, ou dans les temps anciens quand il faisait une alliance, il concluait l'acte par écrit, puis il tuait l'animal et se tenait debout entre celui-ci. Il séparait l'acte de l'alliance en deux, une personne prenait une partie. Comme les buanderies chinoises avaient coutume de faire, Le chinois, ici, ne pouvait pas écrire l'anglais. Ainsi, il écrivait là-dessus, déchirait un bout de papier et vous en remettait une partie. Vous vous souvenez que les buanderies chinoises avaient coutume de faire cela. Les deux bouts de papier devaient être comparés pour que vous puissiez recevoir vos vêtements. Vous voyez, vous ne pouviez pas le tromper parce qu'il possédait l'autre bout. Vous pouviez bien recopier votre nom, mais vous ne pouviez pas redéchirer ce papier. Voyez-vous? Ainsi, cela devait être le même morceau de papier. Or, c'est ainsi qu'il faisait autrefois en Orient. Il tuait un animal, se tenait debout entre celui-ci, arrachait un morceau de peau de chèvre, l'un prenait un, et quand l'alliance était confirmée, ils amenaient les pièces ensemble et elles devaient se raccorder exactement. Maintenant, ce que Dieu lui montrait ici par ceci, concernant ses sacrifices, nous parle de Christ. Comment Dieu prit Jésus sur le calvaire, le mit en pièces, reçut le corps au ciel et fit descendre l'Esprit sur nous. Le même Esprit qui était sur lui doit être sur vous pour se raccorder avec le corps afin d'être l'épouse du temps de la fin. Voyez-vous? Maintenant, ce ne sera pas une dénomination, ce sera la parole, ce qu'il était. Voyez-vous? De même, cette parole doit s'ajouter à la parole comme une cellule dans l'être humain. Vous savez, lorsque votre corps commence à se former, ce n'est pas une cellule d'humain, puis ensuite celle d'un chien et ensuite celle d'un porc. Non, 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 c'est entièrement une cellule humaine. C'est ainsi qu'est le corps de Christ. Il est entièrement la parole, pas seulement une partie de celle-ci, une certaine tradition ajoutée à celle-ci. Non. C'est entièrement le corps de Christ. Maintenant, nous voyons ici qu'il se servit à la fois d'une tourterelle et d'une jeune colombe, car ils sont absolument de la même famille. Remarquez, je me réfère seulement à quelques-uns de ces passages. Lévitique 12, verset 6. Nous voyons ici qu'il était ordonné à une femme de se purifier. Si la femme avait un bébé, elle devait attendre. Si c'était un garçon, elle devait attendre 33 jours avant de pouvoir entrer dans l'assemblée avec les colombes pour sa purification. Si elle avait une fille, elle devait attendre 96 jours avant de pouvoir entrer dans l'assemblée. Maintenant, nous trouvons ici au verset 6. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'Holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Vous voyez, elle ne pouvait pas entrer encore, parce que ses jours n'étaient pas terminés, mais elle pouvait remettre ceci au sacrificateur, à l'entrée, pour son sacrifice, soit une tourterelle ou un jeune pigeon. Voyez-vous, tous les deux sont de la même famille. Maintenant, cela était pour l'Holocauste, et pour le sacrifice d'expiation, c'était une colombe. Ou bien, pour la lèpre qui est un type du péché, vous apportiez deux colombes. À l'une, on retranchait la tête, on la tournait à l'envers, et on en répandait le sang sur l'autre qui était relâché. Lorsque la colombe s'envolait, elle arrosait le sol du sang de sa compagne, et le sang criait jusqu'à Dieu, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu !» Ne pouvez-vous pas voir Jésus-Christ, notre compagnon mourant, il fut tué et son sang fut aspergé sur nous, afin que nous soyons relâchés en criant « Saint, 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 ô Seigneur !» Quel merveilleux type ! Je souhaiterais avoir de la voix. Or, cela est un type du glorieux Saint-Esprit, comme nous venons de lire dans Matthieu 3, 16. Dieu se servit de cette colombe comme signe. Noé reçut un signe, comme le frère vient de le chanter. Dieu était courroucé, et rien n'allait arrêter sa colère, car il dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Noé avait trouvé grâce devant Dieu, et avait construit une arche selon les constructions, les instructions plutôt, qu'il lui avait données. Il s'était mis à flotter. Je peux imaginer ce qui arriva en ce temps-là, lorsqu'ils dirent, « Ce vieil homme, là-haut sur la colline, ce vieux fanatique qui construit une arche et qui dit qu'il va pleuvoir alors qu'il n'a jamais plu. » Noé dit, « Il va pleuvoir de toute façon. » Et alors, je sais que le jour où il entra, je pense que Je ne peux pas me souvenir quel jour c'était. Je crois que c'était le 17 mai. Noé entra dans l'arche et Dieu ferma la porte. Il commença à y avoir des nuages. Les pluies se mirent à tomber. Les égouts commencèrent à se remplir. Les sources de l'abîme jaillirent. Elles vomirent complètement leurs eaux. Finalement, les gens rentrèrent dans leur maison, montèrent sur leur toit. La vieille arche resta bien à sa place comme d'habitude. Après un certain temps, quand il y eut suffisamment d'eau autour d'elle, elle se mit à s'élever de plus en plus haut. Les gens frappaient aux portes et criaient, mais cela ne fit pas grand-chose, car Noé ne pouvait pas ouvrir la porte. Dieu l'avait fermée. Dieu était le seul qui pouvait l'ouvrir. Il en est ainsi de notre arche, Jésus-Christ. Dieu nous ouvrit la porte sur le calvaire, et il la fermera aussi vrai qu'il l'ouvrit. Elle flotta, continua à flotter et à flotter, peut-être à 1,5 km au-dessus de la surface de la Terre, lorsque celle-ci dévia de sa route, de son orbite régulière. Elle partit en allant partout, çà et là, au-dessus des arbres et des montagnes, etc., tanguant pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsque les vents vinrent à cesser, la colère de Dieu est terrible. Son amour est pur et divin. Sa colère est tout aussi divine que son amour, parce qu'il doit exercer le jugement, car il est un juge. Dieu est un justicier, et une loi sans pénalité n'est pas une loi. Ainsi, il doit y avoir une pénalité à la loi. Lorsque vous transgressez les lois de Dieu, vous devez alors en subir les conséquences. Maintenant, nous remarquons qu'après que Noé eut flotté là-haut, sans aucun doute qu'il dut avoir le mal de mer à cause de tout ce mugissement et ce soulèvement, tandis que la colère de Dieu se déchaînait. Puis cela commença à se calmer, plus rien ne se produisit. Les jours passaient et plus rien ne se produisait. Peut-être que les provisions de nourriture des animaux commençaient à diminuer, rien ne se produisait. Ainsi il pensa, « Je me demande, je ne peux pas regarder au dehors. » L'arche était construite d'une façon qu'une fois que vous vous trouviez à l'intérieur, il n'y avait qu'une seule fenêtre et celle-ci se situait juste au-dessus. Vous ne pouviez pas regarder de côté, vous ne pouviez regarder d'aucune manière si ce n'est droit en l'air. C'est ainsi qu'est notre arche, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas regarder le voisin, vous ne pouvez voir rien d'autre que Christ quand vous êtes dans l'arche, parce qu'il n'y a qu'une seule porte et il est cette porte dont nous avons parlé ce matin. Vous devez continuer à regarder en haut, car celui qui a mis la main à la charrue et qui même se détourne pour regarder en arrière n'est pas digne de labourer. Maintenant, comme dans cette arche, il pouvait voir la lumière et peut-être la lumière du soleil, mais il se demandait où il était. L'arche continuait toujours à flotter. Il pouvait entendre le bruit des vagues contre les parois, mais il savait que beaucoup de jours s'étaient écoulés. Sûrement que l'eau était en train de se retirer à ce moment-là. Ainsi, il alla chercher un oiseau déloyal et traître. Il l'éprouva et l'envoya dehors. C'était une corneille, et cette corneille ne revint jamais, car elle prit plaisir là-bas en dehors de l'arche de Dieu. Il volait d'un cadavre à un autre, mangeant de la chair de cadavre et de la charogne qui flottait sur l'eau. Il était pleinement satisfait. Ainsi, après plusieurs jours, il essaya de nouveau, car il savait, il ne voulait pas sortir sous la colère de Dieu. Ainsi, il lâcha une colombe. Cette colombe avait une nature différente de... Ce n'était pas un vautour ni un charognard, car elle peut seulement manger des choses propres. Elle fut si contente de revenir vers l'arche, car elle ne pouvait rien trouver d'autre pour poser la plante de son pied. Noé dit, « Eh bien, le déluge est toujours là. » Puis il attendit plusieurs jours encore et il la renvoya. Ceci fut en quelque sorte sa prière. « Ô Dieu, ta colère a-t-elle été apaisée ? Ta colère est-elle passée, Seigneur ? Est-ce bien fini ?» Et il dit, « Maintenant, si je l'envoie dehors cette fois-ci, elle pourra rester là, dehors, si les eaux sont basses. Elle pourra rester là. » Mais il l'envoya dehors en priant. Puis lorsqu'elle s'en alla, dirigée par Dieu, elle ramassa une feuille de houx d'un arbre et revint picoter à la fenêtre. Dieu se servit de la colombe comme signe. Elle revint en disant que le déluge était fini. Alors Dieu ouvrit la porte et il sortit de l'arche. Ceci est Genèse 8:8. Elle fut aussi employée dans Matthieu 3:16, lorsque la colère de Dieu fut à nouveau sur la terre. Il n'y avait aucun moyen, c'était au plus sombre de la nuit, vers minuit. Les églises avaient perverti les choses à tel point qu'il n'y avait plus moyen d'en sortir. Il y avait de faux docteurs, toutes sortes de choses qui paraissaient, toutes sortes de professions. Mais Dieu se servit à nouveau de la colombe. Cela lui plut. Son Fils, Jésus, lui plut à tel point qu'il l'identifia. Maintenant, il ne pouvait pas croire que ce bébé qui était né là-bas dans cette étable, dans une crèche de paille, avant, supposait-on, que son père et sa mère ne fussent mariés, il ne pouvait pas imaginer que Dieu se servirait d'une chose comme celle-ci. Ainsi, il devait être identifié aux yeux du monde. Ce jour-là, lorsqu'il descendit là-bas, à la rivière, pour prouver qu'il était le chef-d'œuvre de Dieu, dont j'ai parlé ce matin, quand il obéit pour s'avancer dans l'eau. Maintenant, si vous remarquez ici, il y a une grande leçon. Jean était le plus grand homme de la terre en ce temps-là. Jésus a dit que jusqu'à ce temps-là, il n'y avait jamais eu d'homme né de femme aussi grand que lui. Et il était un prophète. Croyez-vous cela? Maintenant, souvenez-vous, si la parole de Dieu doit venir à qui que ce soit dans le pays, ce sera un prophète. C'est toujours la façon de procéder de Dieu. Croyez-vous que Jésus était la parole manifestée dans la chair? Ainsi, il n'y avait pour lui qu'une seule façon de venir afin d'être introduit, non pas par les prêtres. Amen. Il n'est pas monté pour dire « Caïphe, peux-tu m'introduire ?» S'il avait fait cela, il aurait fait la même erreur que fit David, comme on a vu dans notre leçon l'autre jour. Voyez-vous, s'il était monté vers l'église pour dire « Voulez-vous m'introduire ?» Remarquez simplement sa naissance. Quand il naquit dans l'obscurité de l'église. Il sonnait probablement les cloches et ainsi de suite. Mais ce furent les bergers qui le reconnurent, et les mages. Voyez-vous? Maintenant, le voici prêt pour son ministère. Et s'il est la parole, selon le grand plan de Dieu, la parole peut seulement. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans la révéler d'abord à ses serviteurs les prophètes. Cela a toujours été son modèle, ce doit l'être. Avant que les sceaux n'aient été ouverts, avant quoi que ce soit, avant que quelque événement d'importance se produise sur la terre, Dieu la révèle à ses prophètes. Jean était le prophète, car il prophétisait qu'il s'en venait. Puis là-bas, au pied de la colline, un jour, lorsqu'une discussion se poursuivit avec un groupe de prêtres qui se tenaient autour, ils dirent, « Veux-tu me dire que tu te dis toi-même prophète? Et tu te tiens là dans cette boue? » Pas dans une église, car ils ne voulaient pas de lui. « Tu te tiens dans cette boue? Tu me racontes que leur vient où le grand Jéhovah qui a ordonné ses sacrifices, le grand Jéhovah qui a bâti ce temple, qui est entré sous la forme d'une colonne de feu? Le jour viendra où ce sacrifice quotidien sera retranché? » Il dit, « Il viendra un homme, et il est au milieu de vous en ce moment, quelque part par là, et il ôtera le péché. » Le prêtre en était scandalisé. Jean leva la tête. « Maintenant, qui est-il ? Le prophète ! Voici la parole, voici que vient la parole, s'avançant tout droit vers le prophète, vers l'eau. Jean dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le voici, c'est lui. » Jésus n'a jamais dit un mot. Il s'avança tout droit dans l'eau. Je peux voir là, se tenant dans l'eau. Pensez à cette scène. Deux des plus grands hommes que la terre ait jamais rencontrés. Dieu, la parole, est son prophète. Remarquez, la parole est venue au prophète dans cette dispensation de grâce dans l'eau. Je pensais que vous le saisiriez. Dans l'eau, la première révélation de la parole fut dans l'eau. Maintenant, vous voyez où l'épouse a commencé le message de la lumière du soir? Dans l'eau, la parole, la vraie parole qui n'est pas mélangée de credo, mais qui est venu au prophète dans l'eau et par l'eau. Remarquez, pouvez-vous vous imaginer les yeux de la parole et les yeux du prophète se rencontrant dans l'eau? Oh, c'est trop pour moi! Ici se tenait le prophète, et là se tenait la parole, se regardant l'un l'autre dans les yeux. Le prophète dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Et la parole dit, il doit en être ainsi. Maintenant, laissez-moi vous raconter une scène ici. Jean, tu es un prophète, tu connais la parole, voyez-vous? Tu me reconnais, tu sais qui je suis. c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, dit Jean. Jésus dit, laisse faire, c'est parfaitement juste, tu as effectivement besoin d'être baptisé par moi. Mais souviens-toi, Jean, étant un prophète, il nous incombe, ou il est convenable pour nous, en tant que la parole est le prophète, que nous accomplissions chaque parole. Car Jean, voici la révélation maintenant. Jean, tu sais qui je suis le sacrifice. Selon la parole de Dieu, le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté comme sacrifice. Est-ce juste la parole? L'agneau était lavé, ensuite présenté comme sacrifice. Et je suis cet agneau. Je dois être lavé avant de pouvoir être présenté au monde comme sacrifice. Laisse faire, Jean, car ceci est convenant pour nous en tant que la parole et le prophète réunis. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'erreur. Maintenant, chacune de ces choses... Or, vous voyez, si cela n'avait pas été de cette mise en place même, Jean aurait été comme n'importe qui d'entre nous, ainsi le dire. Oui, je sais qui tu es, Seigneur. Eh bien, dit-il, attends une minute, je suis la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole. Ève en laissa tomber une, mais vous devez prendre chaque parole. Je suis ce sacrifice, et je dois être lavé avant d'être présenté. Mais ce que tu as dit, Jean, est vrai. Jean, étant un prophète, sachant que la parole devait être accomplie, laissa faire et le baptisa. Lorsqu'il sortit de l'eau, voici qu'arriva le message du ciel sur les ailes d'une colombe. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il envoya le message de rédemption de la grâce sur les ailes d'une colombe qui descendit des cieux. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Le sacrifice était prêt dès ce moment-là, ayant été élevé et nourri. Son ministère était prêt. Une parole qui rachèterait le monde entier. Tout est accompli. La colombe est utilisée dans la Bible comme symbole de paix. Elle est aussi utilisée par des nations comme symbole de paix. Nous avons des nations. Notre nation est représentée par l'aigle. Il y a d'autres oiseaux pour les autres nations. Rome a un aigle, l'Allemagne a un aigle. Beaucoup parmi eux ont de grands oiseaux du ciel. Mais parmi tout ceci, la colombe symbolise la paix chez tous les peuples. C'est un signe universel. Tout comme frère Grimm disait un soir, frère Perry Grimm disait, « Le symbole de l'abdication, c'est de lever les mains. N'importe quel peuple qui lève les mains montre par là qu'il abdique. Lorsque vous chantez, dit-il, levez vos mains, vous abdiquez tout. » La colombe est le symbole de la paix dans chaque nation. Pourquoi cela? À cause de sa douceur et de son innocence. C'est ce qui fait qu'elle symbolise la paix. Une autre chose à propos de la colombe. C'est un oiseau casanier. Elle aime rester à la maison. Il y a autre chose, c'est qu'elle reste toujours fidèle à son compagnon. Les colombes, que ce soit le mâle ou la femelle, ne se quittent jamais l'un l'autre. Cette femelle rencontre son compagnon à la saison des amours. Voyez, c'est un éloge à la grande création de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a créé Ève sous-produit. Voyez-vous, si elle avait été comme les autres femelles, quand la saison des amours serait venue, elle aurait rencontré son compagnon, mais elle le pouvait n'importe quand, voyez-vous. Et c'est ainsi, c'est cela. Nous ne voulons pas entrer là-dedans, parce que je l'ai expliqué dans « Mariage et divorce » et ainsi de suite. Comment cela? Cependant, elle est honorable, elle apporta cette vertu, et vous savez comment j'ai prêché là-dessus l'autre soir. Très bien. Remarquez, elle a une grande responsabilité. Mais la colombe reste toujours fidèle à son compagnon. Toujours. Elle ne quitte jamais. Puis-je m'arrêter ici juste une minute pour dire ceci? Une vraie épouse, une colombe femelle, est fidèle à son compagnon aussi. Elle n'injectera aucun dogme, aucune doctrine dénominationnelle, rien qui soit du monde. Elle restera fidèle à son compagnon, la parole, toujours fidèle. À cause de ses habitudes casanières, à cause de cela, elle a été utilisée avec succès comme pigeon voyageur, parce qu'elle aime son chez-soi. Vous la lâchez n'importe où, elle reviendra toujours à la maison, elle reviendra. Nous aimerions appuyer là-dessus quelques instants. Vous, chrétiens, comprendrez ce que je veux dire. Elle retrouve toujours le chemin du retour à la maison. C'est pourquoi elle a toujours été utilisée comme pigeon voyageur. Habituellement, elle était utilisée en temps de guerre. Ils utilisaient toujours les pigeons voyageurs pour porter un message. Ainsi, vous voyez que cela fait de la colombe une messagère. Pour Dieu et pour l'homme, la colombe est une messagère. C'était une messagère pour Noé, afin de lui annoncer qu'il y avait de nouveau la paix. Dieu l'utilisa pour confirmer ce qu'était son Fils, le sacrifice qui devait amener la paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Elle fut utilisée comme messagère. Maintenant, il me vient à l'esprit une petite histoire que j'ai lue dans un livre. Je ne peux pas le certifier, mais il se peut que j'ai lu cela dans Le déclin de la Première Guerre mondiale. Je n'en suis pas certain. Cependant, si vous vous apercevez que cela n'y est pas, alors je fais erreur. Soit que je l'ai lu dans un livre, il y a de cela bien des années, mais c'était certainement un drame vécu. Les soldats américains étaient la cible des mitrailleuses allemandes, et ils se trouvaient dans une espèce de fosse. Vous, soldats, comprenez, je pense, comment ils étaient envoyés en reconnaissance quelque part. Ils se trouvaient coincés, et il ne restait plus qu'un peu de munitions. Les Allemands se déplaçaient par grandes unités et ils s'installaient partout. Ils savaient qu'à moins de recevoir du renfort, de l'aide, ils allaient bientôt tous mourir. C'était urgent. Les Allemands descendaient tout droit de la montagne, apercevant directement leur tête. Ils marchaient droit sur eux comme cela. L'un d'entre eux se souvint tout à coup qu'il avait une petite mascotte, un petit pigeon. Ainsi, il savait que ce pigeon, s'il pouvait sortir de là, porterait le message au chef d'état-major où ils s'étaient trouvés stationnés. Ainsi, ils écrivirent une note. « Nous trouvons coincés à telle place dans une certaine région. N'avons plus de munitions. Dans quelques heures, nous devrons nous rendre ou nous serons massacrés. » Ils épinglèrent ceci ou l'attachèrent à une patte de cette petite colombe et ils la lâchèrent. « Or, c'est un oiseau casanier, » ainsi-il. « Que fit-elle ? » Elle retourna à la maison pour rencontrer et retrouver son compagnon. Elle était inquiète à son sujet. Il fallait qu'elle rentre à la maison. Comme elle s'éleva dans les airs, les Allemands virent ce qui est arrivé. Voici ce qu'ils firent. Ils se mirent à tirer sur la colombe. L'un d'entre eux l'atteignit avec une mitrailleuse de calibre 30 ou avec une balle de fusil et lui cassa la patte. Un autre lui arracha un gros morceau de la queue. Sa poitrine était meurtrie de part en part. Une de ses ailes était mutilée. Elle en perdit le bout. Elle volait de travers, mais elle continua à monter, et finalement, elle y arriva. Mutilée, blessée, brisée, meurtrie, mais elle tomba dans le camp avec le message. C'était une noble colombe, mais, ô frère, Ésaïe 53 nous parle d'une colombe qui quitta sa demeure et tout ce qui était bon. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La maladie, la superstition et les démons nous avaient coincés. Il n'y avait aucun moyen de s'en tirer. L'Église s'était égarée. Il s'était lancé dans des choses dénominationnelles. Il y avait les pharisiens et les sadducéens qui faisaient le lavage des pots et des plats. La parole de Dieu avait été annulée. Mais cette petite colombe descendit. Une seule chose devait se produire, il devait y avoir un rédempteur. Bien qu'étant blessé, brisé, battu, déchiré, il connaissait le chemin du retour à la maison. Ainsi, de la croix du calvaire où ils le meurtrirent, l'écrasèrent et le déchirèrent comme une bande de loups, il prit son envol du calvaire et il atterrit aux portes du ciel en disant « Tout est accompli, tout est accompli, ils sont libres ». La maladie peut désormais être guérie. Les pécheurs peuvent être sauvés. Les captifs peuvent être libérés. Bien qu'il fût meurtri et blessé dans cette grande bataille, là-bas où tout était contre lui, même le poète s'écria, « Au milieu des rochers qui se fendirent et des ténèbres, mon sauveur pencha la tête et mourut. Mais le voile ouvert révéla le chemin de la joie du ciel, de même qu'un jour éternel. » Toute ma vie, j'ai été un névropathe. Étant petit garçon, il y avait quelque chose qui me frappait, qui m'effrayait. À peu près tous les 7 ans, cela m'arrivait. Frère Jack, vous vous souvenez au début, lorsque j'ai commencé, j'ai quitté le champ missionnaire pendant 1 an, car quelque chose venait de se produire. Je me souviens du jour où Juanita Emphill, Je pense que son nom est Juanita Kelly maintenant. Elle a épousé frère Kelly après la mort de son mari. Anna, John, j'ai leurs photos et tout. Ils étaient, ces deux sœurs et sœurs mortes formaient un petit trio. Elles chantaient ce chant que je n'ai jamais oublié. Regardant au-delà du soleil couchant. Frère Jack, vous vous souvenez, je pense, que nous revenions de la Floride. Quelle jeune fille remarquable. Je me souviens ce matin-là d'un petit groupe pentecôtiste d'ici, au nord, quelque part dans le Michigan. Ces jeunes filles se tenaient là, debout, quand frère Hooper, je l'ai vu l'autre soir, il se peut qu'il soit ici en ce moment, frère Ed Hooper. Êtes-vous ici, frère Ed? Je ne pense pas qu'il... Il était assis ici l'autre soir. Beaucoup parmi vous le connaissent. Lui, frère Houlet et moi, nous partions. Ces jeunes filles se tenaient là dans le coin chantant cela. Elles donnèrent à chacun de nous une rose jaune qu'elles détachèrent de leurs cheveux. C'est là où ce maniaque fut guéri. De grandes choses s'étaient produites. Tandis que je m'en venais sur la route, étant aussi heureux que je pouvais l'être, soudainement cela me frappa. Un an plus tard, avant que j'entre à nouveau dans le champ missionnaire, cela me creva tout simplement. Quand j'étais un petit gars, je disais toujours que je ne savais pas ce que c'était qu'une vision. Étant petit garçon, je me disais toujours, si seulement je tombais dans l'une de ces transes pour voir cela, j'irais mieux. En ce temps-là, je désirais toujours aller chez Mayo pour découvrir ce qui n'allait pas. Les médecins là-bas, j'ai de l'acidité dans l'estomac. Oh là là! Frère Jack m'aida à rentrer chez moi. Comme je m'approchais de la maison, un liquide chaud et visqueux sortit de ma bouche. Je suis monté en chair et j'ai prié pour des gens qui étaient deux fois plus malades que moi et qui ont été guéris. J'avais imposé les mains à un homme qui avait un cancer au visage. Le cancer quitta son visage et cet homme se tenait là debout. Mais moi, j'étais si malade que je ne pouvais pas me tenir debout. Vous ne savez pas comment j'ai souffert d'oppression mentale. Tous les 7 ans, c'est venu dans ma vie. C'est là où j'en suis maintenant. À 8 fois 7. Ainsi, j'étais si affligé. J'ai crié, j'ai supplié et j'ai intercédé. Je me souviens lorsque j'ai conclu que j'avais assez d'argent pour aller me faire examiner chez Mayo, on me disait, ils découvriront quel trouble vous avez. Ma femme et moi, ainsi que Becky, là-bas au fond, Sarah était toute petite. Je venais juste de commencer mon ministère de guérison et nous sommes partis chez Mayo. J'ai passé par la clinique. La nuit avant que je découvre, je devais passer les examens finaux le matin suivant. Je m'éveillais simplement et j'étais assis là sur le bord du lit en regardant autour de moi. Je regardais en face de moi. Il y avait un petit garçon qui me ressemblait tout simplement. Près 7 ans, j'ai bien regardé et c'était moi. Il se tenait près d'un vieux chicot d'arbre. Et sur ce chicot d'arbre, n'importe qui d'entre vous qui chasse l'écureuil sait que vous pouvez frotter un arbre avec un bâton comme cela. De haut en bas, ça effrayera l'écureuil et le fera fuir s'il est dans le creux de l'arbre. Je regardais là où cet écureuil se trouvait et je pensais, quelle sorte d'écureuil est-ce? Je frottais l'arbre. Lorsque je le fis, je regardais à nouveau et c'était moi, âgé environ de 38 ans. Le petit garçon était parti. Ainsi j'ai frotté cette branche et voici du creux de l'arbre, du poteau, sortit un petit écureuil, à peu près long comme ça. Foncé, presque noir, c'est comme si un petit courant électrique sortait de lui. Avec ses petits yeux en trou de vrille, on aurait dit que c'était la chose la plus affreuse que j'eus jamais vue. Il ressemblait plus à une belette qu'à un écureuil. Il regarda directement vers moi. J'ouvris ma bouche pour dire « Eh bien !» Et à ce moment-là, avant même que vous ayez pu battre des paupières, il sauta droit dans ma bouche, descendit dans mon estomac et me mit simplement en pièces. Comme je sortis de la vision avec les mains en l'air, les yeux ouverts, je me mis à crier « Oh Dieu, aie pitié, cela est en train de me tuer !» J'entendis une voix tout au fond de la chambre qui disait « Souviens-toi, cela a seulement 6 pouces de long. » 15 centimètres, note de l'éditeur. Combien ont-ils entendu cette histoire? Je l'ai racontée bien des fois à ceux qui viennent au tabernacle. Eh bien, cela a continué sans fin et je souffrais comme d'habitude. Les frères Mayo, le jour suivant, m'examinèrent. Ils dirent, « Votre père était un Irlandais et il buvait. Votre mère étant mi-indienne, cela fait que vous êtes presque un métiste. Ainsi, vous avez simplement les nerfs détraqués et ce sera ainsi jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous en sortir. Autrement, dirent-ils, vous êtes en bonne santé, Mais cela, c'est quelque chose dans l'âme que l'homme ne peut pas contrôler. Lorsqu'un homme meurt, nous ne pouvons pas analyser cela car son âme est partie. Eh bien, dit-il, vous n'en guérirez jamais. Et cet homme, mon vieux docteur me dit, mon père avait cela. Il mourut à peu près à 85 ou 90 ans, aux alentours de ces âges-là, dit-il. Un mois ou deux avant qu'il meure, je l'examinais. Il eut cela toute sa vie. Il avait, dit-il, ses périodes. Certaines personnes, dit-il, qui ont cela, sont des gens qui s'emportent facilement. C'est cette sorte de maladie qui vous tuera. Ceux qui sont atteints de l'autre sorte sont comme des femmes dans leur période de ménopause. Ils pleurent. Vous avez cette sorte qui fait éprouver un sentiment de lassitude. Les gens d'autrefois disaient qu'ils avaient des idées noires. Cela ne les quittait pas. Quand cela vous arrive, vous ressentez de l'acidité dans l'estomac. Vous devenez simplement malade. Je dis, « Mais monsieur, je ne fais absolument rien. Je suis heureux, dis-je. » Il répondit, « C'est juste. C'est simplement ainsi que cela sort de la boîte à surprise humaine. Vous aurez toujours cela. » Oh, comme c'est décourageant. Mais je pensais aux paroles. Souviens-toi, cela a seulement 6 pouces de long. 15 centimètres, note de l'éditeur. Cela m'a poursuivi comme ma chère épouse là-bas au fond peut vous le dire. Année après année, j'ai pensé à cela. Puis m'en allant outre-mer la dernière fois, j'étais de retour à la maison. J'étais à une partie de chasse à l'écureuil. Je suis vite sorti de la voiture avec frère Bankswood, qui est à l'écoute ce soir. Je me suis mis à courir sur la montagne, et c'est comme si mon cœur allait sortir de ma poitrine. Il dit, « La prochaine fois que cela vous arrivera, passez un cardiogramme. » Je dis, « Très bien. » Ainsi, cela arriva de nouveau l'année suivante. Je suis donc allé passer un cardiogramme. Il dit, « Il n'y a rien qui n'aille pas avec votre cœur. Vous êtes simplement nerveux. » Cela commence à revenir alors. Eh bien, un autre médecin, un de mes bons amis, me dit, « C'est ton cœur, mon gars. Tu ferais mieux d'être prudent. » C'est l'année où j'ai appelé frère Mort et il trouva quelqu'un pour prêcher à ma place. J'étais parti à cette chasse au bélier avec frère Fred. Je gravissais les montagnes simplement, comme lorsque j'avais 16 ans. Mille après mille à la course. Cela ne m'a jamais gêné, voyez-vous. Je suis revenu en parler à Sam. Il dit, « Eh bien, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu ferais mieux d'être prudent. » Puis, j'eus la vision d'un vieux médecin qui se tenait debout avec ses... un petit médecin de l'ancien temps, avec des stéthoscopes suspendus au bras, il dit. Il s'est tenu debout devant moi un jour et me dit, « Ne les laisse pas te raconter que c'est ton cœur, c'est ton estomac. » Ainsi je pensais, « Eh bien, je croirais seulement cette parole, car c'était une vision. Allons donc. » Je partis pour l'Afrique. Je me suis fait vacciner et je dus recevoir une série de piqûres avant d'aller en Afrique, car la loi l'exige. Ainsi, pendant que je recevais ces piqûres, il dit, « Eh bien, je ne peux absolument rien trouver chez vous qui n'aille pas. Votre hémoglobine, dit-il, votre énumération globulaire est de 96. Si vous aviez 16 ans, vous ne vous porteriez pas mieux que maintenant. » Et il ajouta, « Votre cœur est assez fort pour battre pendant 100 ans. Les poumons et tout, dit-il, tout va bien pour vous. Vous n'avez pas de sucre, rien. » Je dis, « Merci. » Ainsi, je passais l'examen de santé et suis allé chercher mon certificat de santé au bureau. Ainsi, il dit, « Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Je dis, « Tout ce que je sais, c'est que j'ai sans cesse de l'acidité dans l'estomac. » Il dit, « Eh bien, je vais vous dire. » Je dis, « Oh, on m'a examiné. Je suis allé chez les frères Maillot et partout. » Il dit, « Mais attendez une minute. Parfois, dit-il, un ulcère est si petit que cette poudre de baryone ne le montrera pas. Et parfois, c'est trop gros pour être vu, car un rayon X donne seulement l'ombre. » Un ulcère tout petit, vous ne pouvez pas le voir, car cela n'adhère pas assez. Beaucoup d'ulcères minuscules pourraient faire cela. Il dit, je connais un vieux médecin ici qui a trouvé un instrument. Ils l'ont maintenant. Ils pensent vous endormir avec un peu de pantothal de soude, vous mettre un tube dans la gorge et il regarde simplement dans votre estomac pour voir ce qui ne va pas. Il dit, c'est un gars de votre genre, c'est un chrétien. Il ajouta, pourquoi n'allez-vous pas le voir? J'ai pris son nom. Docteur Van Ravensworth. Ainsi, quand je suis revenu, je suis allé voir ce vieux médecin. Oh, c'est un vieillard remarquable. Il vient des Indes néerlandaises, étant issu d'une grande lignée de missionnaires. Il avait entendu parler de moi, avait lu mon livre, et oh, il s'empressa de me serrer la main et dit, Frère Branham, ça me ferait plaisir de faire ça pour vous. Il dit, je vais vous dire ce qu'il faut faire. La semaine prochaine, vous vous amènerez à l'hôpital ici, et téléphonez-moi avant de partir. Et il dit, Je vais vous donner une petite piqûre de pan total. Alors cela vous fera dormir pendant 5 minutes. Ma petite fille venait juste d'en recevoir une pour se faire arracher une dent, ainsi que la petite fille de frère Norman. Je pensais, un petit somme de 5 minutes, cela ne me fera pas de mal. Ainsi, je pensais être enfin satisfait de pouvoir regarder cela. Puis le matin suivant, je me suis redressé dans mon lit. J'ai jeté un coup d'œil autour. Ma femme, qui était là dans le lit jumeau, ne s'était pas encore réveillée. Je regardais par la fenêtre vers les grandes montagnes de Catalina, là-bas où j'habite, et j'ai regardé là où l'ange du Seigneur avait mis cette épée dans ma main. Là où les 7 anges que vous voyez sur la photo sont apparus. Là-bas où de grandes choses se sont produites. Comme je regardais, voici que je me tenais de nouveau à côté de l'arbre, à l'endroit même où se trouvait cet écureuil. Je relevais la tête, je pensais, c'est ce nid d'écureuil? Et je pensais, je me demande s'il est toujours là, dans la vision. Je grattais le tronc de l'arbre, et voilà qu'il sortit. Avant même que je puisse battre des paupières, c'était l'écureuil le plus affreux que j'ai jamais vu. Maintenant, il vous faudra connaître mon ministère pour connaître ces symboles et ces choses. Il sauta sur moi, mais il me manqua. Il manqua ma bouche, me heurta la poitrine et retomba. Aussitôt, j'entendis quelque chose me dire, « Va dans les montagnes, Catalina !» Ainsi, je me retournai et dis, « Meda, es-tu réveillée, chérie ?» Et je la réveillai. Elle dit, « Qu'y a-t-il ? » Il était environ 5 heures du matin. Je dis, « Je regardais par ici et j'ai revu cet écureuil, chérie !»« Quel écureuil ?» Je dis, « Celui que j'ai vu là-bas chez Maillot !» Je dis, « Tu sais quoi ? Il m'a manqué la bouche cette fois-ci. Il ne m'a pas eu. Il est allé sur ma poitrine. » Je dis, « Gloire à Dieu ! J'ai attendu, oh, depuis que je suis tout petit, j'ai ardemment désiré voir cela arriver. Si jamais je pouvais voir ces choses arriver, même pas avant que je sache que c'était une vision, si jamais je pouvais voir cela arriver, alors je me disais que tout irait bien pour moi. Peu importe ce que cela me dirait, c'est ce que je deviendrais. Pendant 40 ans, j'ai attendu cela, et voilà que c'est arrivé. Auparavant, quand j'étais chez Maillot, même moment où je me trouvais là-haut, lorsqu'ils m'ont donné ce message, j'ai eu une vision. Ma vieille mère est partie dans la gloire maintenant. C'était une femme étrange, très étrange. Elle eut environ 3 ou 4 songes durant sa vie, et ils étaient toujours vrais. Elle me raconta cela, et elle commençait à me raconter son rêve. Je disais, arrête-toi juste ici, maman, je vais te raconter le reste, voyez-vous? Parce que toutes les fois que vous me demandez d'interpréter un songe, vous ne me le racontez pas toujours de façon exacte. Alors, lorsque je le revois, je vois exactement ce que vous avez rêvé. Puis ils me disent ce que c'est, voyez-vous? Vous n'avez pas besoin de me raconter le songe, il me le montre lui-même, voyez-vous? Alors je vois et je dis, eh bien, vous ne m'avez pas dit ceci et cela, voyez-vous? Ainsi le Dieu qui peut interpréter un songe peut montrer un songe. Il peut en montrer un, il peut l'interpréter.
Et ainsi donc, eh bien, n'y avait-il pas quelque chose comme cela dans la Bible? Où il est dit, si tu peux, cela me vient soudainement à l'esprit. Daniel, n'est-ce pas? Non, Joseph. Eh bien, c'est quelque part dans la Bible. Je me souviens simplement qu'il est dit, si vous pouvez me montrer, si vous pouvez me dire qu'est-ce qu'un... Oh, c'est le roi Nebuchadnezzar, c'est juste. Il est dit, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas... Les magiciens répondirent, raconte-nous le songe. Il dit, il m'a quitté. C'est juste, c'est cela, je m'en souviens. Je viens juste d'y penser alors. Maintenant, remarquez, lorsque je suis revenu, maman m'a dit, viens ici mon garçon et assieds-toi. Elle dit, j'ai eu un drôle de rêve. J'ai rêvé que je te voyais malade au lit, sur le point de mourir, à cause de ton estomac, bien entendu. Combien de repas diététiques m'a-t-elle préparé? Elle me dit, tu construisais une maison sur une montagne. J'ai vu, dit-elle, 6 colombes blanches descendre du ciel, formant la lettre S. Elles roucoulaient, elles se posèrent sur ta poitrine. Tu regardais, et celle qui se trouvait en tête essayait de te dire quelque chose. Elle dit qu'elle brillait beaucoup, des colombes blanches. Elles appuyaient leur petite tête contre tes joues et faisaient « coucou, coucou ». Elle dit, je ne pouvais pas comprendre cela. Elle continuait sans cesse à faire ce petit bruit. Je dis, oh, je vois ce que c'est, gloire au Seigneur. Elle ajouta, elles formèrent à nouveau leur lettre S et s'en retournèrent dans les airs, roucoulèrent s'en retournant à la maison. Eh bien, le petit animal que j'ai vu avait 15 centimètres. Il y avait 6 colombes dans cette file que maman vit. 6 est incomplet. Je savais qu'un jour je verrais la 7e. C'était l'homme qui souffre. Ainsi cela a continué. Et ce matin-là, je me suis levé après avoir eu cette vision. J'ai obéi au Seigneur. J'ai conduit Joseph, mon petit garçon, à l'école. Il m'écoute en ce moment à Tucson. Je l'ai conduit à l'école et j'ai dit à Meda que je ne savais pas quand je serais de retour. Je suis monté jusqu'au Catalina, là-bas, au pied des montagnes, et je me suis rendu à l'endroit où l'ange du Seigneur me mit l'épée dans la main. C'était de très bonne heure, et j'ai commencé à gravir la montagne. Eh bien, au lieu de me rendre jusqu'au sommet, de ce côté-ci, là où il y a beaucoup de serpents et de scorpions, vous savez comment c'est en Arizona, j'ai tourné à droite. Quelque chose m'a dit « tourne à droite ». Je suis parvenu jusqu'au sommet. J'allais, ça et là, tournais autour de ces immenses rochers qui sont bien des fois plus gros que ce tabernacle, me rendant jusqu'à ces sommets, là où rarement quelqu'un peut se rendre. Et vers 11 heures environ, j'entrais dans un petit abri. Un petit endroit comme ceci qui déviait comme cela sur une piste de cerf. J'avais enlevé ma chemise, mon chapeau à la main, car j'étais tout en sueur. Ainsi, je suis rentré là-dedans. Comme je tournais pour entrer dans ce petit abri, j'ai senti la présence du Seigneur. J'ai jeté mon chapeau par terre et j'ai regardé alentour. Je pensais, il est ici quelque part. Je sais qu'il est ici. Je pensais, qu'est-ce que c'est? Je fis quelques pas de plus. Je dis, Seigneur, tu es ici quelque part. Et j'ai vu coucher là, par terre, dans le sentier, ce petit écureuil. Il avait sauté sur quelque chose, il l'avait manqué, il avait frappé une série de chola ou un cactus sautant. Cela lui avait perforé la tête, la poitrine, l'estomac, il était mort. C'était ce petit écureuil à la mine bizarre. Il avait manqué ma bouche et il avait frappé ce chola. Et la voix du Seigneur dit, « Ton ennemi est mort ». J'étais là, debout, et je tremblais. Avec mon pied, habituellement, les corneilles l'auraient dévoré. J'ai tué un serpent quelques jours plus tard. Il est resté là, sur le chemin, à peu près une demi-heure. Il y a toujours des aigles, des corneilles qui passent par là, et ils le picoreront immédiatement. J'ai tué un serpent corail. C'est le serpent le plus dangereux que nous ayons. Il se trouvait étendu, juste à côté de moi, quelques jours après cela. Je me suis dépêché de revenir pour le ramasser afin de le montrer. Les corneilles en passant l'avaient déjà emporté, les corbeaux qui passaient. Cet écureuil avait été étendu là depuis que j'avais eu la vision, 2 jours auparavant. Je crois que c'était le samedi, je suis monté là le lundi. Ainsi, il se trouvait là, étendu et mort, et je l'ai écrasé du pied. Je suis reparti alentour et me suis assis à nouveau. Assis là, je pleurais quelques instants et priais. Je regardais en bas vers Tucson, à des milles devant moi. Je repartis faire un tour, j'y retournais, et il était toujours étendu là. Lorsque je suis entré dans cet abri, l'Esprit de Dieu vint de nouveau sur moi. Je partis et descendis de la montagne. Je suis rentré, et j'ai dit à ma femme, « Chérie, je ne sais comment, mais je vais venir à bout de ceci. » Le docteur Ravensworth m'examina et dit, il vous est complètement impossible d'être guéri. Il me donna une piqûre de pantotal qui devait durer 5 minutes et je dormis pendant 10 heures. Ainsi, cette chose, même une aspirine m'assomme. Il me donna une piqûre et fit descendre ce tube dans ma gorge. Et quand je revins à moi et qu'il me parla le matin suivant, il dit, révérend, je suis désolé de vous dire ceci, mais les parois de votre estomac sont tellement dures qu'elles se dessèchent. Je n'ai jamais vu cela. Il employa le nom de gastritis. Je suis donc allé voir dans le dictionnaire. Et ça signifie quelque chose qui s'est desséché. Et il dit, vous ne pouvez pas en guérir. Et il ajouta, vous aurez toujours cela. J'aurais été un homme bien découragé si cela n'avait pas été la vision du Seigneur. Et le jour suivant, quelque chose m'a dit, retourne à la montagne. Ce jour-là, au lieu d'aller d'un côté, je fus conduit de l'autre côté. J'étais là, debout, et voici que j'aperçus là, en face de moi, cette septième petite colombe blanche. Elle était là, me regardant. Je me frottais les yeux et je dis, sûrement que c'est une vision, assurément. Je regardais et je dis, petite colombe, d'où viens-tu? Elle était jolie, blanche. Cela aurait pu être un pigeon. De toute façon, elle se trouvait bien loin dans ce désert. Le Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, dont je suis le serviteur et dont la parole se trouve ouverte ici devant moi, sait que je dis la vérité et que je ne mens pas. La colombe se trouvait là. Elle me regardait. Je me détournais. Je fis quelques pas. Je pensais, sûrement que c'est une vision. Je tournais la tête, regarde à nouveau. Elle se tenait toujours là. Ses petites ailes blanches, aussi blanches que la neige. Ses petites pattes et son petit bec doré. Elle était posée là. Elle me regardait. Elle regardait directement vers l'ouest. Je m'approchais d'elle comme ceci, mais je ne voulais pas la toucher pour rien. Je continuais sur le chemin, regarde à nouveau, et voici qu'elle était toujours là à me regarder. Frère, en tant que fils d'Abraham, je ne considère pas ce que le médecin m'a dit. Je vais aller mieux de toute façon. Le troisième jour que j'y suis retourné, je montais jusqu'en haut de la colline. Beaucoup parmi vous connaissent la vision du chef indien, escaladant ce petit mur vers l'ouest. Quelque chose m'attira vers un gros rocher, à peu près vers midi, et me dit, appuie tes mains contre cela et prie. Dieu dans les cieux sait que ceci est vrai. J'appuyais mes mains contre la pierre et regardais vers le ciel et commençais à prier. Et j'entendis une voix qui venait du sommet des rochers et qui disait, sur quoi es-tu en train de l'appuyer? Sur ton cœur? Et je me relevais comme ceci, les épaules nues, le torse nu, j'avais chaud. Je regardais en arrière. Il était écrit dans le quartz, dans la pierre, aigle blanc. C'est exactement ce par quoi la vision avait dit que le prochain message sortirait. J'étais si surexcité que je rentrais à la maison, je pris un appareil photo, je revins le jour suivant et je pris une photo de cela. C'était toujours là, écrit dans la roche. Aigle blanc, la colombe conduisant l'aigle. De toute façon, je le sais. Je vais vous le dire avant que cela arrive. Le médecin, c'est un bon médecin, il n'y a aucun doute. Je pense que c'est un homme remarquable, mais je sais que je vais me remettre de cela. C'est fait, c'est fini, et je vais aller mieux. Je réfléchissais, comme Ernie chantait ce chant tout à l'heure, sur les ailes d'une colombe. Quelle en est la mélodie? Comment cela pour moi, Ernie? Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, chantez-le avec moi. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Je crois savoir qu'Ernie a composé deux couplets. Je vais en faire un chant à trois couplets. Noé a navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières, des ennuis il en a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Jésus, notre Sauveur, vint un jour sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de paille, ici-bas rejeté, mais non pas du ciel, Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Bien qu'ayant souffert de bien des manières, j'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour. La foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe.
Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Ô Dieu bien-aimé, je te remercie de ces choses, Père. Tu as donné à Noé le signe, tu as donné au monde le signe, et tu m'as donné un signe. Le lendemain, voyant cet aigle volant, ô Dieu, il y a un message qui est en train de sortir maintenant, et je te prie, ô Dieu, de laisser la colombe conduire. Accorde-le, Seigneur. Cela m'a amené à une foi que je n'ai jamais eue auparavant. Je sais, ô Dieu, je sais que cela va s'arranger. Ainsi, je te remercie de cela, Père. Ce soir, envoie à nouveau ton message, Seigneur, sur les ailes de la colombe de la parole. Accorde-le, ô bien-aimé Père Céleste, que ta grande colombe de foi descende dans le cœur de chacun de ceux qui passent par cette estrade ce soir. Et là-bas, dans les réunions, tout au travers du pays, et donne-leur, Seigneur, la foi pour leur guérison. Souvenez-vous que Dieu ne fait pas exception de personne. Il a pu envoyer le message à Noé, il a pu l'envoyer à Jean-Baptiste, il a pu me l'envoyer, il veut l'envoyer à d'autres. Je prie que cette colombe vienne dans chaque cœur, en ce moment même, Seigneur, avec son petit bec doré, et qu'elle murmure ceci, par ses meurtrissures, par mes blessures et meurtrissures, vous êtes guéris. Ô Dieu, fais que nos transgressions soient effacées, que nos iniquités soient pardonnées, et que nous soyons guéris de nos maladies. Cela repose dans tes mains, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec vos têtes inclinées, juste encore un instant, combien ici aimeraient dire ceci? Si vous le pouvez et si vous le désirez, frère Branham, j'ai eu tort toute ma vie. J'ai désiré servir Dieu, mais ce soir, je suis prêt à abdiquer. Priez Dieu que cette colombe vienne dans mon cœur ce soir. Je peux la sentir battre des ailes comme elle entre. Levez les mains, voulez-vous? Ici, dans cet auditoire, visible, oh, partout dans le bâtiment, là-bas, dans les auditoires, tout au travers du pays, au nord, chez frère Hunt et frère Coleman, chez frère Léo et les autres, au sud, à Tucson, et au Branham Tabernacle, sur la côte ouest, partout, levez les mains. Je désire que la colombe vienne dans mon cœur ce soir. Apportez-moi le doux amour de Dieu sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Le Saint-Esprit, apporte-le-moi ce soir, Seigneur, et verse dans mon cœur la foi dont j'ai besoin. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, ô Dieu, de pardonner nos péchés. La colombe blessée a ramené le message. Ô Dieu, tout est accompli. Nous croyons cela. Donne-nous simplement la foi pour le croire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. D'où venait cette colombe? Je ne sais pas. Elle ne serait pas allée là-bas dans ce désert comme cela. Non, 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 elle ne serait pas allée là. Pourquoi était-elle blanche? Le Père Céleste sait qu'elle était aussi blanche que ma chemise. Elle se posa là, sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Oh, ne vous sentez-vous pas réellement petit? Serrons-nous simplement la main les uns et les autres et chantons-le, sur les ailes d'une colombe blanche. Levons les mains vers lui et chantons-le. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Noé a navigué sur les eaux plusieurs jours, il chercha la terre ferme de plusieurs manières, des ennuis il en a bien eu, mais non pas du ciel, Dieu lui donna son signe,
sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Jésus, notre Sauveur, vint un jour sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de paille. Ici-bas, on l'a rejeté, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Pourquoi moi, un vieil homme qui ai souffert toute ma vie, pourquoi me guérit-il maintenant? Je crois que je parcourrai encore ce sentier, je dois apporter un message. Je dis à mon père ce soir, comme Junior a vu l'autre soir en songe les ailes de cette colombe qui entrait par l'une de ses fenêtres ici, « Seigneur, ton serviteur est à ton service. Amen, je suis prêt. » Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Croyons maintenant qu'elle entre, qu'elle descend sur l'auditoire. Sur les ailes d'une colombe blanche, nous attendons, Seigneur, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Vous qui avez des cartes de prière dans cette allée-ci, avancez par ici, levez-vous, venez par là, dans cette allée, de ce côté-là. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Ceux qui ont des quarts de prière dans cette rangée, sortez vers la gauche. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. D'où venait la colombe, là-haut, dans le désert? Je dirais ceci, Dieu vit qu'Abraham avait besoin d'un bélier comme signe. Il est Jéhovah Jireh. Le Seigneur peut se pourvoir lui-même pour le sacrifice. Pensez à cela, le même Dieu, par la même inspiration, au même genre de personne, envoya une colombe. Il est toujours Dieu, Jéhovah Jireh peut se pourvoir de quoi que ce soit dont il a besoin. Tandis que vous venez dans cette ligne de prière maintenant, ne voulez-vous pas demander à Dieu de pourvoir pour vous sur les ailes de la colombe? La colombe, l'Esprit du Saint-Esprit, qui vous donne la foi dans votre cœur pour croire que vous allez être guéri. J'essaie de les faire lever tous debout, voyez-vous? Je le demande maintenant. Frère Waoun est à son poste, frère Jack. Que dites-vous? Très bien, bien, cette partie-ci passe de ce côté-ci. D'abord avec ceux qui sont alignés. Cette partie-là, ici, vous venez vous placer juste derrière eux. Ceux-ci se placent juste derrière l'aile. Et vous, placez-vous derrière eux, vous approchant pour qu'on prie pour vous. Maintenant, je suis sûr que ceci n'ira pas vite. Nous allons simplement prendre le temps qu'il faudra pour pouvoir réellement prier pour chacun, autant que nous pouvons. Maintenant, j'ai un peu écourté mon message. Vous avez tous compris cela. Afin que je puisse avoir cette ligne de prière. Ceci est une ligne de prière pour commémorer les jours où vous, frère Jacques Moore et frère Young Brown, vos femmes vous laissaient partir et nous nous rendions en Californie, traversant tout l'Arizona, ensemble, au travers du désert, prier pour les malades. Vous savez quoi? Il y a des gens qui vivent aujourd'hui et qui se mouraient à ce moment-là. Ils sont encore en vie à cause de cet effort. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a suscité des guérisons divines dans chaque église qu'il y a dans le pays. Maintenant, même chez les presbytériens et ainsi de suite. Cela a fermé leur bouche, car cela prenait Dieu pour oindre quelqu'un afin de tuer Goliath et pour prouver que cela pouvait se faire. Amen. Puis le reste d'entre eux prit courage, c'est juste, et ils continuèrent. Cela peut encore se produire, car il envoie toujours son amour sur les ailes d'une colombe. Chrétien, je désire que vous écoutiez. Si je me tenais ici et essayez de vous énumérer les choses surnaturelles que j'ai vues se produire dans ces 3 dernières années, je serai encore ici, à cette heure même, samedi soir prochain, en train de vous parler. Et même, je n'en parle pas tellement, car cela semble presque impossible, mais je vous raconte la vérité, c'est exactement la vérité. Nous vivons sous la conduite du grand et puissant Jéhovah, le même qui était avec les prophètes de l'Ancien Testament et avec l'Église du Nouveau Testament. Il est ici, aujourd'hui, prenant une épouse parmi les gentils pour son nom. Croyez-le, ne le croyez-vous pas? Et si jamais vous ne l'avez jamais cru, croyez-le dès maintenant. Je désire que vous le croyez. Même ce soir, nous ne savons pas ce qui arrivera. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous demeurons simplement dans l'attente. S'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus, je vous demande ceci en tant que son serviteur. Je sais que lorsque vous traitez avec des assemblées, tout est mélangé là-dedans. Mais si vous croyez que je suis son serviteur, s'il y a l'ombre d'un doute, le péché, le doute, l'incrédulité, s'il y a l'ombre de ceci dans votre cœur, demandez au Père de l'enlever immédiatement. Voyez-vous, Seigneur, dès que vous venez avec une foi véritable, maintenant, mes mains ne vous diront absolument rien, à moins que cela vous frappe premièrement. Puis lorsque cela viendra, cela l'enflammera et vous serez guéri. C'est juste, vous saurez que vous êtes guéri. Vous le croirez, vous voyez? Maintenant, je vais prier pour chacun de vous. Et je, quand vous ferez ceci, posez vos mains les uns sur les autres aussi. Ainsi nous, vous prierez pour la personne sur qui vous posez les mains. Puis je vous ferai passer par la ligne de prière. Posez vos mains sur quelqu'un qui est à côté de vous dans la ligne. Ô Dieu bien-aimé, je ne connais aucune autre façon de dire ces choses, Seigneur. Je sais seulement dire ce que je sais être la vérité. Et tu m'es témoin ce soir que je dis la vérité. Ma foi, Seigneur, est ma propre guérison future. Je ne sais quand, je ne sais comment, je ne le comprends pas, mais je le crois, Seigneur, que j'ai reçu le signe d'en haut. Cette 7e colombe est finalement arrivée ici. Le 7e pouce est presque achevé sur l'animal. Tout est accompli. Ô Dieu, je désire servir ton peuple. Ainsi je te prie, ô Dieu, de nous joindre à tel point ce soir que tous ceux à qui nous imposerons les mains puissent être guéris. Non pas parce que c'est nous, mais parce que c'est suivre ton commandement. Tu as dit, ces signes suivront ceux qui croient. Seigneur, aide-moi à croire et fais que nos cœurs soient le lieu de repos de la foi. Et que pour la gloire de Dieu, chaque malade et affligé dans ce bâtiment ou à travers le pays, qui obéit à ses commandements maintenant, soit guéri. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la dépression, la peur, je sais ce que... Oh, la pauvre, elle dit qu'elle n'a jamais ressenti la paix dans sa vie. La même chose qui... Elle ne peut pas dormir, étant nerveuse, tendue. Oh, Dieu bien-aimé, tu m'es témoin, Seigneur, que j'ai dit la vérité. Quel sentiment de compassion je ressens envers cette femme. Je te prie, oh Dieu, de lui envoyer ce soir cette lueur de foi d'en haut qui montre que tu es obligé envers ta parole et que tu garderas chaque parole. Que le Dieu du ciel enlève cette crainte de ma sœur. Je t'obéis en lui imposant les mains et en condamnant cela. Au nom de Jésus-Christ, que cela sorte d'elle. Amen. À présent, regardez, sœur, croyez-moi, si à ce moment-ci vous pouvez marcher par la croix, à partir de ce soir, niez que vous l'avez. Voyez-vous, continuez à dire, je ne l'ai plus. Alors cela vous quittera. Sœur Palmer, notre sœur Palmer, son mari est un de mes très chers amis et un ministre de Géorgie ou d'Alabama. De Géorgie. Elle montait au tabernacle. Ils viennent en voiture quand je prêche ici au tabernacle et parcourent 2400 kilomètres pour assister à un service. Frère Palmer ou le garçon, quelqu'un a perdu le contrôle de sa voiture et en tournant un coin de rue, ils ont eu un accident. Elle en est restée marquée. Prions. Ô Dieu bien-aimé, délivre la servante de l'un des tiens, sa petite épouse loyale et fidèle, une petite servante de Christ. Je te prie, ô Dieu, de la guérir, comme je lui impose les mains avec mon frère Jack Moore, au nom de Jésus. Amen. Au pied droit, et vous êtes ici pour lui. Son petit garçon est infirme. Il a un trouble d'estomac et a mal au dos. Prions. Dieu bien-aimé, laisse cette colombe blanche comme la neige descendre dans son cœur à l'instant même. Blessé pour notre transgression, meurtri pour notre iniquité, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je demande qu'il en soit ainsi pour notre frère et son petit garçon, au nom de Jésus-Christ. Amen. De sévères maux de tête et un mal de jambes qui le gêne lorsqu'il travaille. Ô Dieu bien-aimé, accorde ta guérison bienfaisante à ce jeune homme, comme nous lui imposons les mains en tant que serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a une maladie de femme, elle désire aussi le baptême du Saint-Esprit. Ô Dieu bien-aimé, comme je fais cette prière de foi pour cette dame, puisse la maladie de femme s'en aller, puisse le baptême du Saint-Esprit venir sur les ailes d'une colombe, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, sœur. Une grosseur à l'œil est pour son bien-aimé compagnon. Ô Dieu bien-aimé, tu connais les cœurs des hommes. Je te prie, ô Père, au nom de Jésus, d'accorder cette requête que ce frère a demandée. Et en obéissant à ta parole, nous lui imposons les mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Elle a une grosseur au côté gauche, et elle a également la gorge malade. Jésus bien-aimé, je te prie de guérir cette sœur. Nous lui imposons les mains, au nom de Jésus-Christ, afin qu'elle soit guérie. Amen. Dieu vous bénisse, sœur. Pauvre sœur, je vois votre trouble, les jambes enflées, les reins, la vessie et une cheville déboîtée. Ô Père, ô Dieu, guéris cette précieuse sœur, Seigneur, je te le demande comme je lui impose les mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, sœur, c'est ainsi que cela s'accomplira. Vous entendez cela au microphone, n'est-ce pas? Que celui qui a... Si le technicien veut augmenter le volume un peu afin que l'auditoire puisse entendre leurs témoignages ou ce qu'ils disent quand ils viennent, priez pour eux lorsque vous les entendez. Dès que je me mets à prier, priez avec moi. Ô Dieu bien-aimé, je te prie de guérir notre sœur. Nous le faisons parce que c'est ton commandement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu bien-aimé, tu entends ce témoignage, tu entends ce que l'ennemi lui a fait. Nous essayons de prendre le nom de Jésus et de vaincre l'ennemi. Il est déjà vaincu car la colombe meurtrie et écrasée est tombée à la porte de la maison de Dieu avec un message. Tout est accompli. Accorde-le, puisse-t-elle le croire, Père, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu bien-aimé, je te prie de guérir notre sœur que voici. Puisse la colombe de Dieu lui témoigner ce soir qu'elle a fait cela pour elle, afin qu'elle puisse être guérie au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu bien-aimé, je pose mes mains sur mon frère qui est debout. Il avait assez de foi pour venir jusqu'ici. Seigneur, maintenant puisse-t-il recevoir sa guérison et retourner à sa place guéri. Au nom de Jésus. Ô Dieu bien-aimé, je prie pour notre frère, lui imposant les mains. Fais, ô Dieu, que la foi de Dieu descende à l'instant et qu'il soit comme Abraham qui appela ces choses qui sont, bien qu'elles n'étaient pas, car Dieu a fait la promesse. Au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu bien-aimé, tu es celui qui peut vraiment décider. Je prie, ô Dieu, comme cette jeune femme a demandé cette chose, qu'elle puisse la recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu bien-aimé, je pose mes mains sur notre sœur en obéissant à ce que tu as dit de faire. Ceci nous ramène à bien des années en arrière. Seigneur, nous avons mis en marche une ligne de prière comme celle-ci et nous savons ce qui s'est produit autrefois. Nous savons que tu es le même Dieu aujourd'hui. Si les gens pouvaient avoir la même foi aujourd'hui, je prie au nom de Jésus pour la guérison de notre sœur. Amen. Ô Dieu bien-aimé, je pose mes mains sur mon frère que voici et je demande sa guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, j'impose les mains à mon frère de la même manière, en tant que témoin de ta force, je demande sa guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je t'amène notre sœur que voici ce soir et je lui impose les mains pour témoigner que je me tiens comme témoin de ta force, comme témoin de tes visions, de ta parole. Donc je témoigne que tu es Dieu. Je lui impose les mains en signe d'obéissance à la parole de mon Dieu et je demande sa guérison. Amen.
Espace blanc sur la bande, note de l'éditeur.
Quoi ? Elle dit le guérisseur. Elle disait qu'un homme de quelque part en Arkansas avait été guéri ce matin-là, un cordonnier aveugle. Vous connaissez l'histoire, cela fut raconté à la radio. Je dis, et je pensais, je fis l'hypocrite, vous ne croyez pas que c'est la vérité ? Oui, monsieur, je le crois. Croyez-vous qu'aujourd'hui Dieu ferait quelque chose comme cela quand ? Monsieur, j'ai écouté les programmes religieux. Je suis chrétienne, j'ai écouté les programmes à la radio, et j'ai entendu dire qu'un homme de là-bas fut guéri ce matin. Ce cordonnier aveugle, ils l'ont expulsé de l'église car il faisait trop de bruit. Il allait d'une église à l'autre, il faisait tourner son chapeau au bout d'une canne, courant d'un bout à l'autre de l'église. Il allait partout dans la ville criant « Je suis guéri, je suis guéri !» Un cordonnier aveugle. Croyez-vous cela ? Elle resta debout quelques instants. Il tombait une espèce de pluie fine. Elle dit « Monsieur, si vous m'amenez où il se trouve, je retrouverai donc mon père. » Alors je me suis senti à peu près comme cela. Peut-être que je suis celui que vous cherchez. Elle m'accrocha par le revers du veston et dit, êtes-vous le guérisseur? Je répondis, non, sœur, mais je suis frère Branham. Elle dit, ayez pitié. Je pensais au pauvre vieil aveugle Fanny Crosby. Tandis que tu en appelles d'autres, ne m'oublie pas. Voyez, il en avait guéri un, il pouvait la guérir. Je mis mes mains sur ses yeux. Je dis, précieux Jésus, un jour, une vieille croix rugueuse descend dans la rue en cahotant, les épaules de celui qui la portait saignaient, son petit corps frêle s'était presque affaissé sous le poids du fardeau, un noir du nom de Simon de Cyrène s'approcha et prit la croix, lui aidant à la porter. Je suis sûr que tu t'en souviens, Père, et l'un de ses enfants chancelle ici dans l'obscurité, je suis sûr que tu comprends. Elle dit, « Gloire à Dieu, je peux voir !» Je dis, « Pouvez-vous voir ?» Elle dit, « Oui, monsieur !» Je dis, « Comptez ces lumières !» Elle les compta. Je dis, « De quelle couleur est mon complet ?» Elle dit, « Vous avez un complet gris et une cravate jaune !» C'était bien cela. Ah, ah, elle pouvait voir ! Oh, Dieu honore l'humilité ! Cette chose en soi est ce qui produira et amènera la victoire formidable dans l'amour divin. Dieu bien-aimé, aie pitié et guéris ma sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bien-aimé, comme je prends cette faible main ridée, il n'y a que toi qui sais ce qu'elle a traversé. Je te prie, ô Dieu bien-aimé, que la même main que je tiens ce soir étreigne comme ces faibles mains de Simon ce jour-là. Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix car je vois maintenant ton salut. Puisse-t-il venir en elle, Seigneur, ton salut, et guéris-la au nom de Jésus. Amen.
Espace blanc sur la bande, note de l'éditeur.
Dans le procès, monsieur l'incrédulité accuse Jésus-Christ. Vous souvenez du procès? Ils avaient l'avocat et tous ceux qui prenaient position pour quelqu'un. Et nous avions l'avocat de l'accusation, Satan, qui se présentait pour accuser. Et comment le procès fut amené? Et il dit, quelqu'un, monsieur le douteur s'avança. Il dit, j'ai entendu un prédicateur dire, oignez les malades d'huile, la Bible dit cela. Je fus oint d'huile, je ne fus pas guéri. L'autre dit, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Il engageait des poursuites. Mais quand le témoin arriva, voilà ce qu'en était. Dieu leur a dit-il, vous auriez été? Il reprit, ça fait 6 mois qu'on m'a imposé les mains. Et la parole dit, imposez les mains malades et ils seront guéris. Et je me suis fait imposer les mains par l'un de tes serviteurs et je n'ai pas encore été guéri. C'est pourquoi tu es un prétentieux parce que ta parole ne signifie pas réellement ce qu'elle dit. Ainsi, quand le témoin s'avança, la vérité était celle-ci, que sa parole est vraie. Il n'a jamais dit quand il le ferait. Il a dit, ces signes suivront ceux qui croient. S'ils imposent les mains malades, ils seront guéris. Voyez-vous? C'est ce qu'il a dit, vous voyez? Ils seront guéris. Que ce soit un miracle qui se produit simplement comme ceci, ou ne serait-ce simplement que d'obéir à Dieu, c'est lui que ça regarde dans l'individu, voyez? Mais si l'individu croit cela, peu m'importe combien cela prend de temps. Il a dit à Abraham, tu vas avoir un bébé de Sarah. Pendant 25 ans, il n'y eut jamais de bébé. Il dit à Noé qu'il allait pleuvoir. Noé avait construit l'arche en vue du déluge, bien des années avant que le déluge arrive. Mais il savait qu'il allait pleuvoir. La Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade et que Dieu le relèvera. Quand? Il ne l'a pas dit. Dieu est juste, il est vrai. Lisez simplement ce que dit sa parole. C'est ce que j'ai fait ce soir. J'ai imposé les mains aux malades. Maintenant, je crois que chacun d'entre eux va être guéri. Chacun d'entre eux. Croyez-vous la même chose? Maintenant, croyez pour ces affligés. Il y a une petite dame ici. Il semble que je dois la connaître. J'ai prié pour elle hier soir, là dans la ligne de prière. Quel est son nom? Chambers. Chambless. Si cette petite dame avait vécu normalement, si elle n'avait pas été affligée, elle aurait été certainement une jolie femme. Elle est assise là maintenant, tremblant. Il y a un esprit très bon, remarquable dans cette femme. Elle est assise là, tremblant comme ceci. Oh, combien cela me brise le cœur. Combien j'aurais souhaité, combien je le souhaiterais simplement. Il y a ici un petit bébé dans les bras d'une femme. Sa petite langue est sortie, son petit corps est malade. Et si c'était mon petit Joseph, et si c'était mon petit-fils Paul, et si c'était Rebecca qui serait assise là-bas derrière, ou Sarah? Et qu'en serait-il si Madame Simpson ici était mes dames à femme, et que ce jeune homme ici était Billy Paul, et que cette vieille dame ici était ma mère? Souvenez-vous, c'est le bébé de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un. Voyez, je suis leur frère, et il est notre sauveur. Tout ce que je peux faire est de... La foi que j'ai est offerte en leur faveur. C'est tout ce que je sais. Maintenant, le Seigneur peut me donner une vision. Il pourrait me dire ce qu'il y a avec chacun d'entre eux. Je peux vous le prouver, voyez, vous savez cela. Mais cela ne les guérit pas. Cela ne les guérit pas. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe en eux, voyez-vous? Et j'espère, tout comme je pourrais monter ici, prendre chacun d'entre vous et vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela ne vous remettrait pas vos péchés. Non, 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 je ne crois pas que le baptême d'eau régénère. Je crois que le sang régénère, voyez-vous? Non, pas l'eau. Mais voyez, je pourrais vous baptiser, mais vous entrez un pécheur sec et vous en ressortez un pécheur mouillé. Voyez, jusqu'à ce que vous soyez complètement repenti. Repentez-vous, et alors soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le mouvement des unitaires. Je ne baptise pas pour la régénération, non. Je crois que c'est le sang qui purifie, pas l'eau, voyez? La repentance, et ensuite être baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je descends pour prier. Et ces gens sont aussi précieux pour moi qu'ils le sont pour vous. Et même peut-être plus que mes propres parents. Maintenant, unissons-nous tous, votre main dans la foi et ma main dans la foi. Faisons descendre les mains du Seigneur Jésus, afin qu'il les impose sur ces pauvres infirmes. Voulez-vous prier avec moi? Ceux à qui appartiennent les mouchoirs pour les malades et les affligés pourront les récupérer immédiatement après le service. Maintenant, aidez-moi à prier pour ceux-ci, voulez-vous? Ô Dieu, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as fait ce soir. Nous te remercions à l'avance pour la guérison de chaque personne qui est passée par la ligne de prière. Ô Dieu bien-aimé, je prie sur ces mouchoirs, peut-être pour certains qui ne pouvaient même pas venir à la réunion, et leurs bien-aimés ont apporté les mouchoirs. Dans la Bible, il nous est enseigné qu'on apportait aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché le corps de Paul. Maintenant, ces gens, ce temps-là, avaient vécu dans ta présence. Ils t'avaient vu dans la rue, ils t'avaient vu dans leur réunion, et ils avaient vu ton esprit sur Paul. Et ils savaient que ce n'était pas cet homme, c'était ton esprit qui dominait sa vie, car nous voyons Paul faire les mêmes choses que tu faisais. Et maintenant, Seigneur, les gens d'aujourd'hui voient le même Dieu vivant dans son Église avec son peuple. et ils ont apporté ces mouchoirs afin qu'ils puissent être apportés d'ici à leur bien-aimé. Accorde-leur, ô Dieu, que chacun d'entre eux puisse être guéri à ta manière. Nous ne demandons pas qu'une chose soit faite de manière particulière ou une chose d'une certaine nature. Nous demandons simplement, guéris-les comme tu l'entends, Père. Pour la gloire de Dieu, j'offre cette prière de foi sur cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu un merveilleux temps de fraternité en présence de votre foi, en votre compagnie en Jésus-Christ. Je me souviendrai longtemps de cette réunion et des choses qui se sont manifestées. L'amour, la coopération, la fraternité. Et maintenant, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que le Dieu du ciel vous guide, que celui qui fait briller les étoiles la nuit pour éclairer le sentier quand il s'obscurcit, puisse illuminer votre sentier par l'étoile de Bethléem, pour vous amener à une vie complètement abandonnée à sa parole. C'est là ma prière. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions, au pied de Jésus, jusqu'à ce que nous nous rencontrions, Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Maintenant, levons-nous. Ma foi regarde à toi. Eh bien, je vais changer de tonalité. Je pense que cela est bien. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière, efface mon péché, que dès aujourd'hui je sois tout à toi. Maintenant, serrons-nous la main les uns les autres pendant que nous chantons. Et dans ce labyrinthe entouré de malheurs, toi sois mon guide, chasse cette noirceur, essuie toutes mes larmes, que jamais je ne m'égare loin de toi. Vous sentez mieux maintenant, n'est-ce pas? Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. C'est là notre message de clôture de cette campagne. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Inclinons nos têtes. Comme les roues bourdonnent un chant en allant à la maison, j'espère que vous entendrez le bourdonnement des roues, le grondement du moteur. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe.